Toute l'actualité de votre territoire est dans le magazine Quartier Libre sur Couleur FM du lundi au dimanche à 8h et 13h. Séance supplémentaire le dimanche à 18h.
Bonjour, vous êtes sur Couleur FM dans l'émission Le Petit Sucérois, le magazine des enfants de Sucieux. Aujourd'hui, vous allez écouter plusieurs interviews. Tout d'abord, Madame Georgette Camus, la doyenne de Sucieux qui a 95 ans et qui nous a fait le plaisir de venir nous voir dans le cadre des TAP, temps d'activité périscolaire. On écoute Madame Camus.
Bonjour Madame Camus, vous nous avez fait le plaisir de bien vouloir répondre à notre invitation et nous allons vous interviewer pour Le Petit Sucérois, le magazine des enfants de Sucieux.
Eh oui, c'est bien gentil.
Tout d'abord, si ce n'est pas indiscret, en quelle année êtes-vous née et où?
Alors, j'ai déjà dit, le 3 mars 1921 à Les Épars, qui se trouve juste là à côté.
Depuis combien de temps êtes-vous installée à Sucieux et où habitez-vous?
Eh bien, depuis toujours. Et j'habite juste à côté de l'école.
Avez-vous été à l'école?
Oui, je suis allée à l'école.
Et où?
À Sucieux.
Jusqu'à quelle classe?
Eh bien, jusqu'à 14 ans, mais je ne sais plus, puisque j'ai eu mon certificat d'études.
Et où?
À Bourgoin. On a passé le certificat d'études à Bourgoin. Mais j'allais à l'école à Sucieux.
Comment se passait l'école à votre époque?
Oh, c'était compliqué. Il y avait une maîtresse qui faisait depuis les tout petits jusqu'au certificat d'études. Et alors, les grands apprenaient à lire aux petits. Parce que pour avoir deux classes, il fallait qu'on soit 35. Et comme Sucieux était tout petit de l'époque, on était peut-être 300 habitants, peut-être un peu plus. Et on n'était pas assez nombreux pour faire une deuxième classe. Et les maîtresses étaient souvent fatiguées. Hein. Alors on avait des remplaçantes.
Combien y avait-il d'élèves dans la classe?
Eh bien, 33-34.
Y avait-il des garçons?
Ah, oh, c'était tout mélangé, oui, mixte.
Comment vous habilliez-vous?
Eh bien, nous avions des blouses. Des blouses, je ne sais même pas si elles étaient noires, je ne me souviens plus. On avait des blouses.
Et
on avait des galoches l'hiver. Les galoches, ce sont des chaussures à tige haute avec du bois dessous. Pour aller l'hiver, c'était très chaud.
Quelles étaient les matières enseignées?
Eh bien, toutes les matières. On faisait de la dictée, on faisait du calcul, et puis il y avait de la morale et de l'instruction civique. C'est ça qu'on appelle ça, c'est vite fait. Et puis tout, la géographie et tout. Les compositions françaises, rédaction, quoi.
Y avait-il du sport?
Oh, on faisait de la gymnastique. La gymnastique.
Pouvez-vous nous raconter la journée d'une écolière de 10 ans?
Eh ben, on arrivait le matin, on devait faire le calcul, je suppose. Et puis après, ça s'enchaînait. Le mercredi, c'était la géographie, je pense. Il y avait un jour pour l'histoire. On était bien occupés. Le samedi, je me rappelle, il y avait du dessin pour les garçons. Et les filles faisaient de la couture. Et on avait ça au certificat d'études.
Et vous mangez où?
Ah, chacun chez soi. Il faisait 3 kilomètres pour s'en aller. Celui du Genevais s'en allait au Genevais. Celui du Buffière s'en allait à pied. On n'est pas allé chercher, il n'y a pas de voiture. Et il y avait encore le catéchisme à 11h. Alors après, il fallait faire ficelle ceux qui s'en allaient loin.
Est-ce que à l'école, c'était plus strict qu'aujourd'hui?
C'était strict, il fallait respecter. D'abord, les maîtresses ne se faisaient pas tutoyer. Est-ce que vous faites tutoyer, vous? Non. Eh bien, c'est très bien. Et on ne tutoyait pas la maîtresse. Et puis, on craignait la maîtresse. Parce qu'on était plus obéissants. Elle nous punissait. Et quand on était gentil, on avait un bon point. Et au bout de 10 bons points, on avait une image. Alors, pour avoir le bon point, il fallait être sage. Hein. Alors, ça se passait comme ça. Oh, c'est une petite image de 10 centimètres. Mais on était tellement contents, on n'avait rien.
Et quelle punition?
C'était le coin. Et puis le bonnet d'âne. On nous fabriquait un bonnet d'âne, celui qui n'apprenait rien à l'école. Et puis, il y en a une fois, il est allé à la cave avec son... Ils étaient deux, ils étaient tellement sots. Ils ont pissé dans le tonneau de la maîtresse.
Hein?
Eh ben, il y avait un tonneau de vin.
Ouais.
Ils ont pissé dans le tonneau. C'est vrai, vous pouvez demander à M. Genevais, il vous le dira. C'était ses voisins qui l'ont fait.
Comment ça s'est passé?
Comment qu'ils ont fait ça? C'est-à-dire, ils étaient tellement ennuyés d'être allés à la cave qu'ils ont dit, on va se venger. Et après, ils ont eu la punition quand même. Hein. Et une autre fois, ils ont fait encore une autre bêtise. Il y avait le charbon, parce qu'on se chauffait au charbon. Ils ont fait passer tous les boulets de charbon de la cave par le soupirail pour mettre dans la cour. Et là, bon, ils ont été punis aussi, parce qu'il a fallu remettre les machins. Au moins, on avait des oiseaux qui étaient terribles aussi. Hein.
Et ils ont eu quoi comme punition ?
Ils ont dû avoir des lignes à copier, je pense.
Est-ce qu'à votre époque, la maîtresse, elle prenait des règles et elle tapait sur les doigts ?
Oh, bah, tirer l'oreille. Elle tirait l'oreille. On ne comprenait rien du tout, mais elle nous tirait l'oreille. Non, elle ne nous tapait pas.
Il y a eu une bêtise avec les encriers.
Des bêtises avec les encriers ? Oh non, pas tellement, parce qu'ils étaient, ils étaient dans un creux. Alors, on ne pouvait pas renverser. Si on renversait, c'est que... Mais par exemple, on avait des taches sur tous les doigts, parce qu'on écrivait avec une plume. Alors, celui qui n'était pas soigneux, ben, il en mettait de partout. Et on faisait notre encre. Il y avait des gens de service, des jeunes, toutes les semaines, des enfants, oui. On mélangeait l'encre, je ne sais pas comment ils faisaient, avec de l'eau et puis un coloris quelconque, quoi. Et voilà, il n'y avait pas de feutre, ni de silobille.
Comment vous faisiez pour le chauffage ?
Eh bien, il y avait un beau poêle au milieu de la classe qui chauffait tout. Alors, il y avait des équipes de service qui venaient le matin pour allumer le poêle, le descendrer. Il y avait des équipes de service.
Avez-vous voyagé ? Si oui, où ?
On faisait un voyage scolaire par an. Le sous des écoles nous offrait un voyage. On allait à Briançon, on allait à Aix-les-Bains, on était contents. Déjà pas mal. Hein. Et de l'époque, il y avait des troncs dans les cafés où quand il y avait une fête, les gens mettaient de l'argent dans ces troncs pour le sou des écoles. Mais enfin, ça faisait pas beaucoup de sous. Hein.
Où alliez-vous faire vos courses ? Que mangez-vous ? Où achetiez-vous vos vêtements, vos chaussures, etc.
Ah ben, les courses, nous avions l'épicerie. Les gens, il n'y avait pas de supérette. Les gens venaient à l'épicerie chez nous. Et puis, il y avait les transporteurs de marchandises. Des livreurs, qui allaient de porte en porte, qui ramassaient les œufs, qui ramassaient les volailles, et qui vendaient leurs marchandises du camion. Ils achetaient les œufs, les volailles, mais c'est ça. Et puis ce qu'on mangeait, eh ben, on mangeait les produits du jardin et les produits de la basse-cour. On allait rarement au boucher, c'était quand même un peu cher. Alors on vivait sur la basse-cour, et tout le monde tuait son cochon. On avait le cochon au saloir, on mangeait plus souvent du cochon que des beefsteaks. Du jambon, ça n'existe pas. On mangeait jambon que pour les mariages ou les fêtes de famille conséquentes. Voilà. On n'était pas plus malheureux pour autant. Hein. Eh ben, les vêtements, il y avait des marchands qui passaient aussi. Alors, on s'achetait suivant le besoin. Une blouse, puisqu'on portait des blouses, parfois dans les maisons. On s'habillait comme ça. Même les casquettes, les hommes achetaient la casquette chez le marchand d'habits. Ah voilà, comme ça se passait.
Avez-vous des coiffeurs à votre époque ?
On n'avait pas de coiffeurs. Les grands-mères avaient des chignons. Et puis nous, on nous coupait les cheveux, ma foi. Il n'y avait pas d'allée frisable de l'époque. On nous coupait les cheveux.
Pouvez-vous nous raconter à Noël quel cadeau ?
À Noël, eh ben, nous avions notre sapin de Noël dans la classe. Et c'était le maire de Sucieux, qui était le comte de l'époque, qui nous offrait les cadeaux. Et puis, c'était des fois un livre, des fois un petit jouet, deux papillotes, et tout ça, voilà. C'était comme ça.
Et dans sa famille, comment ça se passait ?
Dans la famille, c'était vraiment simple. On mettait nos chaussures, bien cirées, évidemment. Et puis, des fois, on se trouvait avec un petit bâton. Et deux oranges et trois papillotes. Voilà. On n'avait pas de cadeaux.
Avec quoi vous amusiez-vous à l'époque ?
C'était le ballon. Mais c'était pas le ballon du foot, hein. On jouait au ballon prisonnier, si je me rappelle, ça s'appelait comme ça, je crois. J'adorais ça, moi, parce que c'était un petit peu... Hein, c'est pas mal, ça.
Faisiez-vous un sport ? Aviez-vous un loisir ?
On ne faisait pas de sport. On faisait de la gymnastique à l'école, c'était tout. On avait la luge l'hiver. On se cassait la figure, des fois, mais enfin bon, c'est agréable.
Où alliez-vous chez le médecin ?
Oh, ben le médecin, c'était Bourgoin. Et on n'allait pas au médecin parce qu'on n'avait pas de moyens pour y aller. C'était le médecin qui se déplaçait, à tous les temps. Le jour comme la nuit comme le jour. Mais il y avait peut-être 5 médecins à Bourgoin. Mais on n'était pas malade. On n'allait pas au médecin pour un mal de gorge. On avait des plantes dans le jardin, on faisait bouillir de la sauce, je m'en rappelle. Des trucs faciles à employer.
Est-ce qu'il y a eu des infections à Sucieux?
Ouais, il y avait beaucoup de rhumes qui tournaient en bronchite. Parce qu'il n'y avait pas les médicaments de maintenant. Puis il y a eu des scarlatines, il y a eu des rougeoles, beaucoup. Et beaucoup de rougeoles.
Mais pas d'épidémie?
Pas d'épidémie, pratiquement, non. Coqueluche, oui.
Allez-vous à la messe le dimanche?
Oh, ben oui, puis alors c'était vraiment obligé d'aller à la messe, hein. Parce que mon père, déjà, qui n'était pourtant pas un partisan de la messe, elle me dit, pourquoi tu vas pas à la messe? Il fallait pas que je donne une excuse, il fallait que j'aille à la messe.
Est-ce que la messe était ennuyeuse?
Oh, c'était pas tellement ennuyeux, mais enfin bon, on aurait mieux aller jouer derrière l'église comme la bonne du curé.
Vous êtes-vous marié? Si oui, avez-vous eu des enfants? Combien?
Oui, je me suis mariée ici et j'ai eu deux enfants, un garçon et une fille.
Où sont-ils nés? À l'hôpital?
À la clinique de Jallieu. Et puis au lieu de rester 3 jours comme maintenant, on restait 11 jours. Voilà.
Comment avez-vous connu votre mari?
Oula, alors là, il faudrait que je fasse un schéma parce que c'est bien compliqué. Il était au régiment. Au régiment, c'est pas. Oui, c'était pas le régiment. Comment on appelait ça pendant la guerre? Les camps de jeunesse. Les camps de jeunesse avec M. Gallois qui est décédé maintenant, ils étaient très amis. Et quand j'ai fêté mes 20 ans, bon, ben, mon cousin Gallois, qui était mon cousin Germain, n'était pas à la table. Je dis, c'est quand même dommage. On lui avait fait un petit paquet de gâteries. Et comme il était bien ami avec mon mari, il en partageait. Il fait, qu'est-ce que c'est que ce paquet? Rien que de la gâterie, d'habitude, il y a des saucissons, des pâtés, machin. Il dit, c'est une cousine qui a fêté 20 ans. Et tu devrais lui écrire, tiens, allez. Et ça s'est fait comme ça. Et quand on s'est écrit, bon, la première lettre, j'ai pas trop répondu parce que c'est pas bien chose. Ma maman me dit, oh, t'es pas poli, il faut répondre. Alors j'ai répondu. Et puis la correspondance s'est fait ainsi. Et alors après, quand c'est allé un peu plus loin, j'ai rencontré, on ne se connaissait pas. On s'était jamais vu. On avait rendez-vous en vélo sur la, il y avait un passage à niveau à Bourgoin, vous rappelez pas de ça. Où il y a la route où passe le chemin de fer. Et on s'est rencontré là. Et il est venu nous voir à Sucieux. Alors ma grand-mère disait à ma mère, tu l'avais fréquenté ce garçon, c'est peut-être un voyou. Bon. Et puis après, ben, ça s'est fait. Et mon beau-père s'est trouvé de connaître le coin parce que pendant la guerre, il était venu danser ici. Alors voilà comment je me suis mariée avec mon mari. Que 6 mois après, j'étais mariée.
Avez-vous travaillé?
Oui, je tenais le commerce au village. Café, épicerie, restaurant, cabine téléphonique et pas public.
Vous avez-vous connu la guerre alors que vous avez 18 ans? Comment l'avez-vous vécu?
Ah, j'avais 20 ans quand la guerre de 40 s'est déclarée. Et mon mari est parti. Il n'est pas parti au Stéo, non? Il est parti, il était au camp de jeunesse. C'est ce que je viens de vous raconter là tout à l'heure. Non? Mais on l'a vécu comme les autres, on partageait le pain. Oh, j'aurais dû vous apporter une carte d'alimentation, tiens. Et on avait des cartes d'alimentation. Alors chaque mois, on avait des numéros à découper. C'était ou du sucre ou du café, le pain. On avait tant de pain par jour. Alors comme mon père travaillait à l'usine, on lui laissait le plus gros du pain pour qu'il puisse manger à sa faim.
Pouviez-vous nous raconter l'annonce de la guerre et la fin de la guerre?
Oh ben, l'annonce de la guerre, j'aurais pas trop dire. C'est qu'on avait des affiches. Hein. Ils avaient, je me rappelle pas ce qu'ils avaient fait là. S'ils avaient sonné, je me souviens pas. Enfin, quand ils sont partis, je me rappelle, tout le monde avait des réquisitions. Ils pleuraient, les pauvres gars. Ils amenaient leurs chevaux pour les Allemands, les vaches, des œufs. On était, les ravitaillements étaient ramassés par les Allemands. Il y avait des agents réquisitionneurs là qui ramassaient tout ça. C'était dur là.
Est-ce que vous avez connu la princesse du château de Buffière?
Oh, très bien. Je l'ai connue. Elle était une brave, très brave femme. Elle dirigeait le cœur de sang à l'église. Elle faisait beaucoup de bien aux gens qui étaient nécessiteux. Et puis elle a été tuée en 44, là. Eh oui.
Avez-vous aussi été contente quand la guerre était finie?
Oh, ben, je comprends qu'on a été contents, c'est vrai. Oui, oui. Parce que là, tous les gens sont rentrés avec les prisonniers qui étaient restés prisonniers, quoi. Et on était très contents.
Est-ce que Sucieux était comme ça lors de la guerre?
Ah, ben, il était comme ça, pas comme maintenant. On était moins nombreux déjà. Et puis bon, ben, il y avait plus de cultivateurs. Hein. C'était que des cultivateurs. Les ouvriers, il y en avait très peu. Je pense qu'il y avait 10 ouvriers dans la commune qui allaient à l'usine. C'était que des cultivateurs.
Est-ce que les gens se connaissaient ?
Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se fréquentait beaucoup et on s'aidait mutuellement. On avait tous besoin de son voisin. Parce qu'il n'y avait pas les machines, hein. Et puis il n'y avait pas la télé qui retient les gens comme maintenant.
Avez-vous eu la télévision ? À quel âge ?
La télévision, mon Dieu. Ma fille devait avoir 20 ans quand on l'avait achetée. Alors elle est née en 48. Alors ça fait en 70 par là quand on l'a eue. Mais on avait quand même un poste de radio. Et tous les gens venaient écouter la radio chez nous. Écouter la radio, il y avait quand même des programmes plus intéressants que maintenant.
Est-ce qu'elle était en noir et blanc ?
Ah oui. Oui, il n'y a pas si longtemps que la couleur... Oui, était en noir et blanc. Oui.
La couleur est apparue à quelle époque ?
Ouais, non, c'est pas si vieux, hein. On n'a pas eu tout de suite la couleur non plus, parce que bon, elles étaient chères au départ.
Est-ce qu'il y avait des fêtes ?
Ah, ben il y avait la fête du village, oui. Il y avait la kermesse du tour des écoles, et il fallait voir cette kermesse. Ils ramassaient de l'argent, puis ils nous payaient des voyages, ouais. Et puis il y avait la vogue aussi, faite par les jeunes.
Vous rappelez-vous la première fois que vous avez voté ?
Bah alors ça, je m'en rappelle plus. Ça, je m'en rappelle pas, je pourrais pas te le dire.
Avez-vous passé votre permis de conduire ?
Oui, à 60 ans.
Pourquoi l'avez-vous passé à 60 ans ?
Parce que de l'époque, tout le monde n'avait pas une voiture, déjà une. Et puis quand j'ai perdu mon mari, ma fille a voulu absolument, pour me faire changer les idées, elle m'a dit, tu n'as qu'à apprendre à conduire, je ne voulais pas. Et puis finalement, ben, je l'ai eu quand même. Et ben maintenant, je continue toujours à la conduire.
Comment vous avez suivi quand ça s'est passé à l'euro, enfin...
Oh, ça a été très difficile pour se remettre... Encore maintenant, je m'y suis parfaitement. Je ne peux pas m'y faire. Quand c'est des petites sommes, ça va, mais quand c'est des grosses sommes, j'arrive à me tromper.
Quelle est votre époque préférée ?
L'époque... Ben, quand j'avais 20 ans.
Hein ? C'était la guerre.
C'était la guerre, mais enfin, on avait le sang qui bouillait derrière les oreilles. Non, c'était bien à 20 ans. Et puis après, bon, on a des enfants, on est bien contents aussi.
Que pensez-vous de notre époque ?
Moi, je ne voudrais pas la vivre, parce qu'on a été trop heureux avant cette période-là, quoi.
Quels sont pour vous les grands changements entre quand vous aviez 20 ans et, allez, disons, quand vous avez 80 ans ou même 60 ans ?
Eh bien, il y a eu beaucoup de choses. Par exemple, on n'avait pas l'eau. On habitait ici, on avait droit à 1 litre d'eau par minute. Alors déjà, quand il faut vivre... avec de l'eau qu'on compte, que j'avais un bistrot en plus. Et les écoles n'avaient pas de... On se demande comment les instituteurs ont fait pour rester ici. Il fallait monter les arrosoirs d'eau dans leur appartement en haut. Il y avait des chemins qui n'étaient pas des chemins, c'était tout des pierres, des gros cailloux. Et l'hiver, il y avait des journées de chemin où les hommes allaient casser les cailloux. Ils avaient des lunettes spéciales pour casser les cailloux. Et les goudronnages sont venus bien plus tard.
Quel est votre plus beau souvenir ?
Oh, le plus beau souvenir, qu'est-ce que je pourrais dire ? Il y a tellement de choses dans la vie. D'ailleurs, nos enfants, quand ils sont nés. Hein ? Et puis bon, on a eu des bons moments aussi. Je pourrais pas les citer. Il y en a eu des mauvais, mais on a eu des bons moments, mais je saurais pas trop dire quoi.
Aimez-vous comment vous vivez maintenant ?
Alors, je suis bien tranquille dans ma maison. Quand je m'ennuie, ben, je fous un petit peu avec ma voiture. Ouais, comme je, hein. Puis j'ai une femme de ménage qui me fait mon ménage parce que j'ai les bras tout cassés.
Avez-vous déjà quitté Sucieux?
Jamais. J'ai toujours resté ici. Ouais. Et j'y mourrai aussi, sûrement. Parce qu'on a tenu le commerce pendant plusieurs années et bon, maintenant je suis à la retraite à côté, alors. Voilà, on est bien. On est bien à Sucieux.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Bon anniversaire, Madame Camus.
Vous êtes sur Couleur FM dans l'émission Le Petit Cicérois, le magazine des enfants de Sucieux. Et nous vous proposons une pause musicale. J'ai choisi Soprano, le titre Barman, extrait de l'album Cosmopolitani. Son 4e album, 10 de diamants, Soprano est un rappeur qui a démarré dans les années 90 avec le groupe Psy 4.
il se lance en solo en 2007 avec un premier album, Puisqu'il faut vivre, disque d'or. En 2010, il sort son deuxième album, La Colombe, disque de platine, et en 2011, son troisième album, Le Corbeau. On écoute Soprano.
Comme tous les matins avant d'aller sur le chantier, il vient me parler de tous ses problèmes de foyer. Il me dit que ses enfants le rendent complètement fêlé, que sa femme le trompe avec le voisin du palier. Et lui là-bas ne fait que nous rabâcher sa jeunesse, qu'il était beau et riche, qu'il a tiré toutes les gonzesses, que dans son temps les jeunes avaient plus de politesse, mais qu'aujourd'hui pour une cigarette il t'agresse. Au fond de la salle j'entends qu'une bagarre éclate, je cours les séparer avec ma fameuse patte. Je vois que le premier a sous la manche qu'elle carte. Le deuxième le rate et me fout une patate. Ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Oui, ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Comme tous les midis en sortant de son petit bureau, il desserre sa cravate et il me parle de son boulot. Il décrit son patron avec des tas de noms d'oiseaux. Il aimerait bien se taper sa secrétaire Véro. Et là y'a cette cougar au décolleté ravageur, jupe léopard, maquillage de film d'horreur. Elle me raconte ses ébats sexuels sans pudeur avec ce petit jeune qui est majeur depuis 24 heures. Et là d'un coup un homme monte sur la table avec son accent bizarre, il nous traite de macaque. Il nous dit qu'à l'époque il était formidable. Puis il tombe dans mes bras en pleurant qu'il est fort. Ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Oui, ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Et moi, mes problèmes à moi, qui s'intéressent. Intéresse. Oui et moi, mes états d'âme et mes tourments. Ici personne ne veut les entendre, c'est normal.
C'était Barman, interprété par Soprano. Vous êtes sur Couleur FM dans l'émission Le Petit Sucérois, le magazine des enfants de Sucieux.
Merci Timothée. Maintenant nous allons écouter Monsieur Didier Bouillot, maire de Sucieux depuis 2010. Il a accepté de répondre à nos questions.
Bonjour Monsieur le maire. Nous venons vous interviewer pour le Petit Sucérois, le magazine des enfants de Sucieux. Nous sommes en classe de CE2, CM1 et CM2. Chaque vendredi, nous nous retrouvons pour l'activité radiophonique organisée dans le cadre des TAP. Didier Bouillot, vous êtes le maire de Sucieux, petite commune du Nord-Isère.
Êtes-vous originaire de Sucieux ? Comment êtes-vous arrivé ici ?
Bonjour les enfants, je ne suis pas originaire de Sucieux, je suis originaire de Lyon et j'ai grandi entre Lyon et la Savoie et puis en 1994, je suis venu m'installer à Sucieux avec mon épouse et mon fils.
Pourquoi vous êtes-vous engagé dans la politique ? Vous êtes élu maire depuis déjà quelques années ?
Je suis maire depuis 2010. Et je me suis engagé en politique en 2005-2006 parce que j'ai considéré qu'à ce moment-là, on ne pouvait plus se contenter d'observer l'évolution de la société. Il fallait s'engager si on voulait que la société évolue dans le sens que l'on souhaitait. Il fallait donc que je m'engage pour que la société évolue dans le sens que je souhaitais.
Aimez-vous votre rôle de maire ?
Ah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce rôle parce que on doit, dans cette fonction, dans ce mandat, réfléchir à l'avenir de la commune, mais en même temps être à l'écoute du quotidien de tous les habitants, que ce soit les plus jeunes ou les plus anciens.
Avez-vous une paye en tant que maire ?
Alors, en tant que maire, j'ai une indemnité. C'est-à-dire que c'est un peu comme une paye, effectivement. Chaque mois, il y a une somme qui m'est donnée. Mais c'est une indemnité qui correspond, finalement, à mon engagement en tant que maire, à mon engagement citoyen, mais qui me permet de moins travailler à l'extérieur, de moins travailler dans ma profession, de travailler à mi-temps et de compenser cette perte de salaire. Voilà pourquoi on appelle ça une indemnité et non pas un salaire.
Comment s'est déroulé votre premier mandat ? Et qu'est-ce un mandat ?
Alors, un mandat, pour répondre à cette question, c'est la période pendant laquelle on est élu, on exerce une fonction élective, maire ou conseiller municipal ou conseiller départemental ou député. C'est un mandat, c'est une durée. Pour un maire, un mandat dure 6 ans. Et moi, j'ai été élu conseiller municipal en 2008 avec d'autres conseillers municipaux. Et donc, c'était jusqu'en 2014. Et j'ai été élu maire pendant ce mandat des conseillers municipaux. J'ai été élu maire en 2010 et c'était jusqu'en 2014 et j'ai donc été renouvelé en 2014. Alors pendant ce premier mandat, c'est-à-dire entre 2008 et 2014, il y a eu une période où on a un peu pataugé et puis il y a eu une période où on a déterminé des projets et notamment on a construit la nouvelle salle des fêtes. Voilà, c'est la réalisation la plus visible du premier mandat.
Comment se passe votre second ? Vos réalisations, vos engagements, vos projets ?
Pour ce qui est du second mandat, pour l'instant, il y a un peu moins de 2 ans qui sont passés, hein, depuis avril 2014. Pour l'instant, on est dans l'élaboration des projets qui doivent être réalisés dans les 6 ans du mandat. Donc, le principal projet, c'est celui qu'on appelle cœur de commune, qui est la réorganisation des locaux scolaires et des locaux municipaux ici, au centre du village, pour redonner un centre dynamique à une commune qui est très dispersée. Donc on veut redonner ici au centre du village une vitalité, ce qui fait que on a ce projet de construction de locaux scolaires, de déménagement de la mairie pour la rendre accessible à toutes les personnes, y compris celles qui ont des difficultés de déplacement. Et puis, on veut aussi redynamiser ce centre-village. Et donc, au mois d'avril, il y aura un marché qui sera organisé en nocturne, un vendredi soir, après la sortie de l'école, avec une quinzaine d'exposants, pour créer un événement commercial au centre de la commune, au centre du village.
Dans vos projets, il y a la création d'une nouvelle école. Pourquoi vous allez créer une nouvelle école ?
Eh bien, parce qu'il faut que les locaux scolaires actuels s'adaptent à l'évolution de l'enseignement et des méthodes éducatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les méthodes d'enseignement, il y a des activités physiques et sportives, de la motricité quand on est en maternelle, et l'école de Sucieux, quand elle a été construite au 19e siècle, il y a plus de 100 ans, eh bien, ces locaux-là n'ont pas été prévus. Donc, on n'a pas ces locaux-là. Ensuite, il y a une cantine qui est toute petite. Donc, il faut recréer une cantine. Ensuite, il y a les activités périscolaires qui se sont créées il y a 2 ans. Et on les a installées dans les locaux associatifs ou dans la salle de motricité. Tout ça est à l'étroit. Tout ça n'est pas fonctionnel. Tout ça n'est pas adapté à l'enseignement. Et tout ça, en matière d'énergie aussi, consomme de l'énergie comme si on était toujours en 1900. On est en 2016 et on a besoin de faire des locaux qui soient plus pratiques et moins consommateurs d'énergie. Voilà pourquoi on crée une nouvelle école.
Comment vous allez vous organiser pendant les travaux ?
Eh bien, on ne sait pas encore. C'est-à-dire que l'école va devoir continuer à fonctionner pendant qu'on construit des nouveaux bâtiments. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette année, on va demander à quelqu'un de nous aider à réfléchir à cette situation. On va lui demander de réfléchir sur les différents scénarios et de nous aider à réfléchir sur la façon de les organiser dans le temps. Par quoi on commence, qu'est-ce qu'on met ensuite, qu'est-ce qu'on déplace. Voilà, on va organiser tout ça et ça, on va le faire cette année. Ce qui fait que, à la fin de l'année, je pourrai répondre à ta question.
Comment sera la nouvelle école ?
Eh bien, c'est un petit peu la même réponse que précédemment, c'est-à-dire qu'on va passer cette année, 2016, à réfléchir justement à la façon dont on va organiser les choses. Aujourd'hui, on a 3 idées. La première, on prend la mairie, on l'emmène à l'école actuelle. Ça, c'est une première idée. Et puis, on reconstruit une nouvelle école tout autour du bâtiment de l'école maternelle aujourd'hui. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, parce que c'est quelque chose qui risque de coûter assez cher, la deuxième idée, c'est de dire, ben, on va juste construire ce dont on a besoin, et le secrétariat de mairie, on le descendra au rez-de-chaussée, et ce qu'on va construire, c'est ce dont on a besoin, une salle de classe, une cantine, une salle de motricité, sur le bâtiment derrière, et l'école primaire restera à sa place. Et puis, il y a une troisième idée qui dit, ben, finalement, la position de la mairie, ça a un peu d'importance, on va mettre une toute nouvelle école au milieu, à la place de l'espace vert. Ça, ça coûte encore plus cher, donc c'est pas garanti qu'on aille sur cette solution. Mais pour l'instant, on réfléchit à tout ça, on va demander à quelqu'un qui n'est pas un architecte, qui est ce qu'on appelle un programmiste. Alors c'est un terme un petit peu barbare ou un peu abstrait, mais il va nous permettre de programmer les travaux. Et à partir de là, on pourra répondre à cette question, comment est la nouvelle école ? Et j'espère pouvoir vous le dire au mois de janvier prochain.
Et la cantine, où elle se situera ?
Dans la continuité de ce que je viens de dire, la cantine, soit elle sera dans une salle nouvelle construite, derrière le bâtiment de l'école maternelle actuelle, derrière le bâtiment de la maternelle et de la cantine actuelle, ou alors on peut aussi décider que la cantine ira dans le bâtiment de l'école primaire actuelle. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a besoin d'une salle de cantine, d'une cuisine pour recevoir les plats comme aujourd'hui, mais aussi d'une salle de cantine plus grande pour pouvoir recevoir le nombre d'enfants qui seront à l'école dans 10, 20, 30 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dimensionne la cantine pour un village de Sucieux qui aura 850, 900 habitants peut-être. Il faut déjà qu'on se projette à 20 ou 30 ans quand vous serez parents.
Est-ce que les anciens élèves pourront visiter la nouvelle école ?
Oh ben, ils seront même invités à le faire, oui, bien évidemment. Parce que quand on construit une nouvelle école, on la construit pas pour tout de suite. On la construit pas pour le mois de juin ou la rentrée prochaine. On la construit pour les 30 ou 40 prochaines années. Quand nos prédécesseurs, en 1897, ont construit l'école actuelle, l'école élémentaire, ils ont construit une salle de classe et au-dessus, il y avait le logement de l'instituteur. Ils n'imaginaient pas que 40 ans après, il y aurait besoin de deux salles de classe, que 80 ans après, il y aurait besoin d'une salle de classe et d'une salle de cantine, et que l'instituteur n'habiterait pas ici. Donc il faut vraiment qu'on construise quelque chose qui sera capable d'évoluer dans le temps.
Comment allez-vous financer tous ces projets ? Allez-vous casser votre tirelire ?
Eh bien déjà, on commence par élever des petits cochons pour en faire des tirelires, ça c'est une première chose. C'est un petit peu complexe, mais pour expliquer, on va chaque année essayer de faire suffisamment d'économies sur la façon dont on fait fonctionner la commune pour pouvoir investir, payer les travaux de la nouvelle école. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, bien sûr qu'on n'aura pas aujourd'hui l'argent pour le faire. On n'a pas de plan d'épargne, on n'a pas de petits cochons, on n'a pas de petites tirelires. Donc forcément, il y a un moment où il faudra qu'on aille à la banque et qu'on dise au banquier, est-ce que vous pouvez nous prêter de l'argent pour qu'on finance cette école ? Et aussi qu'on aille vers l'État, vers le département, vers la région et vers toutes les autres collectivités qui sont susceptibles de nous donner de l'argent, ça s'appelle des subventions, pour payer ces travaux et ce projet.
L'ouverture de la prochaine école sera prévue quand ?
Alors, on l'espère, avant la fin du mandat. C'est-à-dire que le mandat se termine en 2020 et on espère que la nouvelle école sera construite en 2020. Et notre travail consiste aujourd'hui à faire avancer le projet de façon à pouvoir ouvrir cette nouvelle école avant la fin du mandat 2019-2020. Voilà.
Quand on est maire et quand il nous arrive quelque chose, est-ce que les projets tombent à l'eau ou pas ?
Alors, les projets sont portés par une équipe. Le conseil municipal, c'est une équipe de 15 personnes. Et ces 15 personnes sont toutes associées au projet, c'est-à-dire qu'elles en connaissent chacune des étapes. Ce qui fait que s'il m'arrive quelque chose, s'il arrive quelque chose au maire, ça peut être n'importe quoi, un accident où je décide de déménager, donc je démissionne et je m'en vais. S'il arrive quoi que ce soit, l'équipe connaît suffisamment le projet pour qu'elle continue à le porter, pour qu'elle continue à l'amener au bout. Après, chacun apporte sa pierre, sa façon de voir au projet, ce qui fait que le projet que moi je vais porter, ça ne sera pas forcément celui que quelqu'un d'autre porterait. Voilà. Donc, le projet, il peut changer, mais être abandonné, c'est assez rare.
Une maquette du village a été créée par les enfants de Sucieux. Qu'en pensez-vous ?
Ah, je trouve que c'est très très beau et que c'est une très très belle réalisation. On l'a présentée à l'ensemble des habitants au moment des vœux du maire, au début de l'année. C'est une cérémonie assez traditionnelle, mais qui permet une rencontre et qui permet de mettre en avant quelque chose. Et nous, ce qu'on a choisi de mettre en avant cette année, c'est justement cette réalisation que vous avez effectuée pendant les TAP. Et je trouve que c'est coloré, je trouve que c'est sensé, je trouve que c'est vivant. Et j'ai trouvé particulièrement drôle la tête que vous m'avez faite.
Dans notre maquette, il y a une épicerie, une boulangerie, une brasserie. Pourquoi nous n'avons pas ça dans notre village ?
Alors ça, c'est la question qui tue. Il existait jusqu'il y a 3 ans un bar dans le village de Sucieux. Ce bar a fermé parce que n'était plus assez rentable pour que le patron du bar puisse vivre, lui, de son travail. Donc, il a dû fermer. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, les habitudes de vie des habitants de Sucieux ont changé. Les habitants de Sucieux, c'est un village très, très étendu et très éclaté. Il y a 17 hameaux à Sucieux sur une distance de 8 km. Il y a un hameau qui est à moins de 800 mètres des commerces de Nivola-Vermel. Les habitants de ce hameau montent très rarement à Sucieux pour acheter du pain ou pour acheter une plaquette de beurre. Pour qu'un commerce existe, il faut qu'il propose des produits dont les habitants ont besoin quotidiennement et pas trop cher. Un commerce aujourd'hui qui proposerait du pain, du beurre, du gaz, ça serait à de tels prix que les gens ne viendraient pas l'acheter ici. Pour leur travail, ils descendent à Bourgoin-Jallieu ou à l'île d'Abo ou ils vont à Lyon. En descendant à leur travail, ils s'arrêtent pour faire des courses dans les supermarchés où les choses sont beaucoup moins chères. Donc, pour qu'il y ait un commerce à Sucieux, il faudrait que les habitudes de vie des gens changent. Ou alors, il faudrait que ce soit un restaurant qui fasse également bar, qui fasse aussi, pourquoi pas, cantine. Enfin, voilà, plein de choses. Ça, c'est la première des choses, c'est que ce sont des raisons économiques. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on n'a plus d'endroit où mettre un commerce. Le bar, il a fermé. Maintenant, c'est quelqu'un qui habite dedans. Ici, la salle Bon Accueil, elle sert aux associations, elle sert aux activités périscolaires, elle sert à tout un tas de choses, mais on ne peut pas, tout de suite, la dédier à un commerce. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, mais on ne peut pas tout de suite la dédier à un commerce. Et ensuite, la dernière des choses, c'est que dans les 10 ou 15 ans qui viennent, on va essayer de construire plus de maisons autour du village de Sucieux, de façon à ce que les gens soient moins tentés de dire « je prends ma voiture pour descendre à Nivola ou à Bourgoin pour acheter une plaquette de beurre, en revanche, je peux aller faire mes courses le matin, le soir en rentrant du travail, etc. » en y allant à pied ou à vélo, tranquillement, en me promenant, pour avoir des produits qui viennent de plus près, ce qu'on appelle des circuits courts. Mais ça, c'est un travail de longue haleine qu'on va essayer de faire dans les 10 ou 15 ans qui viennent.
Il n'existe pas de conseil municipal pour les enfants sur Sucieux. Serait-il possible d'en créer un ?
Je voudrais bien. Je voudrais bien créer un conseil municipal d'enfants. Et quand on a mis en place les TAP, on a fait des TAP initiation à la citoyenneté, découverte de la citoyenneté, pour pouvoir introduire cette idée de discussion, de responsabilité collective, et peut-être que l'année prochaine, peut-être que l'année suivante, en tout cas avant la fin du mandat, peut-être qu'effectivement on arrivera à créer un conseil municipal des jeunes, sachant qu'il faut savoir qui élit. Quelle forme de conseil municipal ? Est-ce que ça s'adresse à tous les enfants de l'école ? Est-ce qu'on va aussi chercher les 6e, 5e, jusqu'à 13 ans ? Comment ça se met en place ? Quel est le corps électoral qui décide ? Et quels moyens on donne au conseil municipal. C'est-à-dire que créer un conseil municipal d'enfants pour l'écouter et puis lui dire oh, bah, c'est très bien, vous avez parlé, maintenant on va continuer à discuter entre adultes, ça ne sert pas à grand-chose. Un conseil municipal d'enfants, il faut que vous puissiez à un moment dire on souhaiterait faire ça et que vous ayez les moyens de le faire et que vous vous rendiez compte, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une dimension éducative, que vous vous rendiez compte ce que ça implique de porter un projet. Voilà, c'est tout ça qui fait que c'est pas simplement un jouet ou quelque chose de symbolique qu'il faut mettre en place, c'est quelque chose qui a un sens éducatif et qui vous permette véritablement de faire des choses que vous avez envie de faire.
Quel est votre plus beau souvenir en tant que maire ?
Alors, mon plus beau souvenir, c'est une fête de la musique. C'est une fête de la musique qui s'est passée là, au centre du village, où il y a eu la fête de l'école qui s'est passée dans la cour de l'école. Après, avec tous les parents, on a pris le chapiteau, on l'a levé, on l'a passé par-dessus les murs, on l'a amené sur l'espace vert, on a installé tout ce qu'il fallait pour la musique, et on a eu une fête de la musique où tout le monde est venu participer, danser. Il y a eu une chorale de gospel qui a été très très enjouée, vraiment super, une chorale de l'île d'Abo. Après, des percussions qui ont duré toute la nuit et les gens se sont amusés ensemble jusqu'à minuit, et après le temps de ranger, on était fatigués mais on était heureux, et il s'était passé quelque chose entre les habitants, il y avait eu de la joie entre les habitants, et ça, c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais c'est quelque chose qui, pour un maire, est la plus belle réalisation. C'est pour ça que c'est mon plus beau souvenir.
Avez-vous un second métier ?
J'ai un premier métier, oui. Je suis journaliste. Et donc, je travaille maintenant à mi-temps depuis 2014. Je travaille à mi-temps, c'est-à-dire que je travaille une semaine, 3 jours, et une semaine, 2 jours. Et puis, le reste du temps, je suis maire. C'est-à-dire que maintenant, je suis maire à plein temps et journaliste à mi-temps.
Pourquoi avoir gardé votre travail ?
Alors, tout à l'heure, tu m'as demandé s'il y avait une paye. Eh bien, la paye de maire, c'est 700 euros. Donc, avec 700 euros, moi, je ne peux pas vivre. Même si, au niveau de la CAPI, j'ai aussi une indemnité de 600 euros. Donc, mes indemnités de maire et de conseiller communautaire, c'est 1300 euros. Avec 1300 euros, on ne vit pas. Donc, j'ai un travail à côté.
Avez-vous une passion ?
Est-ce que j'ai une passion ? J'aime bien jardiner, j'aime bien faire de la photographie, j'aime bien me promener. Mais je ne ferais pas ce que je fais si ma passion, ce n'était pas finalement la citoyenneté. Voilà.
Nous venons d'écouter le maire de Sucieux, M. Bouillot. Vous êtes sur Couleur FM dans l'émission Le Petit Sucérois, le magazine des enfants de Sucieux. Et nous vous proposons une pause musicale. J'ai choisi Cetro de Kenji Girac.
Qui est Kenji Girac ?
Kenji est un gitan catalan. Il est né le 3 juillet 1996 à Périgueux, en Dordogne. Girac est le nom de jeune fille de sa mère. Il se fait connaître sur Internet en août 2013 avec une reprise de Bella Maître Gims. Il a sorti son premier album intitulé Kenji en septembre 2014. Il a participé à la finale de The Voice 3.
Pourquoi avoir choisi cette chanson ?
Bah, parce que cette chanson, bah, c'est ma chanson préférée. On écoute Kenji Girac.
Con mi sonido te caliento y sube, sube, sube la calor. Te quemo, tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento y sube, sube, sube la calor.
Bien, mon ami, de lo soleil couché, yo fais mon âme, jamais, jamais calme. Une étincelle à mes côtés.
comme une étincelle à mes côtés, comme un feu qui me colle à la peau. Et j'ai toujours le cœur en été, comme si l'hiver était de trop. Moi j'ai toujours le sang chaud.
C'était Kinji Girac, le choix musical de Julie. Et maintenant, on écoute Patrick Gaget, agriculteur à Sucieux.
Bonjour Monsieur Gaget. Vous nous avez fait le plaisir de bien vouloir répondre à nos invitations et nous allons vous interviewer sur votre vie d'agriculteur. Où habitez-vous et depuis combien de temps ?
J'habite Sucieux depuis que je suis né, au hameau Les Grailles.
Depuis combien de temps êtes-vous agriculteur ?
Je me suis installé en 1989. Alors, je ne sais pas combien d'années ça fait, 27 ans. J'ai repris l'exploitation familiale de mes parents avec il y avait déjà des vaches laitières, du terrain, du matériel, un corps de ferme et ben, j'ai repris tout naturellement la suite quoi.
Est-ce que ce métier vous plaît ?
Oui oui, ça m'a toujours plu depuis tout petit. Je suis né dedans, on peut pas... c'est difficile de faire autre chose. Je changerai pour rien.
Pourquoi avez-vous décidé d'être agriculteur ?
Pour être libre en fait et d'être d'avoir des horaires aménagés, on fait un peu comme on veut quand même. Si on veut se lever à 8h, on se lève à 8h, si on veut se lever à 6, on se lève à 6, si on veut, il n'y a pas d'impératif quand même.
Est-ce qu'il y a des contraintes ?
Des contraintes, c'est que on travaille 7 jours sur 7. Et puis bah on prend des vacances de temps en temps, hein, ou des week-ends. Comme moi, j'adhère à un service de remplacement. J'ai un jeune qui vient me remplacer quand je pars en vacances ou si j'ai un problème de santé. Ou...
Si ce n'est pas indiscret, êtes-vous marié ? Si oui, et avez-vous des enfants ? Combien et quel âge ?
Alors, je suis divorcé. J'ai un garçon et une fille qui ont 21 ans et 19 ans, que je vois une semaine sur deux. Mais bon, bah, ça va.
Est-ce que c'est facile d'avoir une famille quand on est agriculteur ?
C'est assez compliqué parce que il faut prendre sur soi, il faut prendre essayer de trouver du temps pour passer avec ses enfants, mais et puis avec sa femme quoi. Et avec le temps, c'est vrai que c'est peut-être ce qui est un peu qu'on s'est un peu éloigné, ce qui a fini par un divorce quoi, mais c'est très compliqué, oui. Ouais, par rapport aux horaires, par rapport à beaucoup de choses.
À quelle école avez-vous été et où ?
J'étais à l'école à Sucieux et après je suis allé à Prébéni. J'ai fait ma 6e, 5e, 4e, 3e à Prébéni. Après je suis allé au lycée agricole à la Côte-Saint-André et j'ai passé un BEP agricole.
Quel diplôme avez-vous eu ?
C'est un BEPA, c'est un brevet d'enseignement professionnel agricole en culture spécialisée élevage laitier.
Aimeriez-vous retourner à l'école ?
Non, pas plus que ça.
Étiez-vous bon élève ?
Oui, j'aimais bien les mathématiques, mais bon, un peu nul en français, mais à part ça, non, si, j'aimais bien aller à l'école.
Quelle était votre matière préférée ?
Les maths, le dessin, l'histoire, voilà. Mais français, anglais, non.
Avez-vous des animaux ?
Des animaux, oui, j'ai un chat, j'ai 35 vaches. Des petits veaux, des génisses, des taureaux, j'ai un peu, oui, en tout, il y en a à peu près une centaine d'animaux.
Des poules aussi.
Dans votre métier, vous travaillez seul ou à plusieurs ?
Bah, pour les petits travaux, je travaille seul. Bah, j'ai mes frères qui m'aident. Et puis pour les gros travaux, les moissons, les ensilages, on travaille à plusieurs. Avec mes cousins, voilà.
Pouvez-vous nous raconter une journée d'agriculteur ?
Quand je ne suis pas surchargé de travail, ben, je fais sonner le réveil à 7h, je déjeune, puis je descends à la ferme par là vers 8h moins quart, et je commence à traire. Première chose que je fais, c'est la traite le matin des laitières, vers 8h. Il faut à peu près une heure. Après, ben, y a le nettoyage, le lavage, enfin des canalisations, enfin c'est automatisé, mais il faut mettre tout ça en route. Après, l'alimentation. Alors, je donne à manger à tous les animaux le matin. Je leur mets de la paille pour qu'elle soit bien au propre pour la journée. Et puis, en général, vers 10h30, j'ai fini. Et après, ben, je vais ou dans les champs ou. Ben, j'ai d'autres activités à côté. Et, Alors après l'après-midi, je rattaque, enfin je déjeune à midi, je fais la sieste. Après l'après-midi, ben, je rattaque et je vais voir mes bêtes vers 4 heures, je redescends à la ferme vers 4 heures. Je repousse l'alimentation, je regarde si tout, il n'y a rien d'anormal, s'il y en a un point de malade, si elles ont toutes bien mangé. Je regarde les abreuvoirs, si elles ont bien de l'eau. Et puis ben, après, ben, je fais rentrer mes vaches dans ma salle de traite. Et là, je commence la traite vers 18h, 17h30, 18h. Et en principe, à 19h30, je suis à la maison. Ça, c'est une journée, on va dire, normale.
Quand est-ce que vous avez eu votre première machine à traire ?
La première machine à traire, quand je me suis installé, en 1989, mon père, il traisait dans une vieille étable avec plein de mouches. Les murs étaient sales, ça transpirait, les vaches laitières étaient vraiment pas bien, quoi. L'été, c'était horrible. J'ai dit, non, moi, si je reprends, je modernise. On a fait un bâtiment neuf, elles sont dans un air paillé, elles sont plus attachées. Et puis, avec une salle de traite automatisée, on les fait rentrer, on les traite avec une machine, quoi. C'est une machine qui traite, quoi. Et nous, on est juste là pour surveiller. Voilà, il y a de l'aspiration qui aspire le lait. Et ça va directement dans un tank à lait qui est refroidi à 4 degrés. Le lait est jamais en contact avec l'air ou les mouches ou la bouse de vache qui peut arriver quand il y a une vache qui bouse, quoi. Ça arrive.
Sinon, ça ferait quoi s'il y a trop d'air ?
Si l'air est contaminé, s'il peut avoir n'importe quelle infection, simplement un virus, un truc, la grippe... toutes sortes, hein. Un coup de vent, quand le vent souffle, s'il y a de la poussière, ça va dans le lait. Hein.
Et où va le lait ?
Le lait, alors, il y a le laitier qui passe avec un gros camion et qui ramasse le lait tous les 2 à 3 jours. Et il l'emmène à la laiterie qu'il transforme en yaourt, en lait dans des briques. Voilà, lait de montagne, des fromages, des crèmes dessert, enfin, ils font toutes sortes avec. Hein. Moi, c'est le Candia Yoplait qui ramasse mon lait.
Avez-vous souvent des animaux malades ?
Ça arrive quelquefois, mais moins, on va dire une fois par mois, ça arrive. Quand il y a des, comme les enfants, quand ils ont la grippe, les vaches, c'est pareil, ça prend la grippe aussi. Alors, on les soigne avec de l'aspirine, et puis quand ça va vraiment pas bien, on leur fait une cure d'antibiotiques. Voilà. C'est surtout les petits veaux, quoi.
Les veaux, ils naissent à peu près les combien de jours ?
Comme les femmes, tu vois. Les enfants, quand ils naissent, c'est au bout de 9 mois. Et le petit veau, c'est pareil. Quand il naît, la maman l'a porté 9 mois dans son ventre. Et au bout de 9 mois, il sort.
Avez-vous déjà été obligé d'endormir une vache ou un veau ? Le piquer.
Le piquer pour le faire mourir ?
Oui.
Non, ça, on n'a pas le droit. C'est le vétérinaire qui fait ça.
Ah oui, mais
c'est le vétérinaire qui décide s'il faut euthanasier une bête ou pas parce qu'elle souffre trop, par exemple. Et après, on a l'écarissage qui vient chercher la bête avec un camion qui l'emmène, je sais pas trop où, mais qui l'emmène.
Avez-vous déjà vendu vos bêtes à l'abattoir ?
Oui, alors les bêtes à viande, elles vont à l'abattoir, mais enfin, c'est pas moi qui m'en occupe. Moi, j'ai un négociant qui passe et qui achète mes bêtes vivantes. Et lui, il vient les chercher avec un camion et les emmène, il les revend à la, je sais pas, il y a beaucoup d'intermédiaires entre du moment où elles sont tuées au moment où ils nous les achètent chez nous.
Vous n'avez que des vaches laitières ou vous faites aussi autre chose ?
Pour les vaches laitières, pour les nourrir, je cultive des céréales, du blé, du triticale, de l'orge, du maïs. Alors, il y en a une partie que je garde pour mes animaux, puis une autre partie, le blé, je le vends pour faire du pain. Et je fais du colza aussi. Du colza, c'est pour faire l'huile de colza, et pour les tourteaux, pour la graine, ils font des tourteaux avec. Puis ils font toutes sortes de trucs avec. On fait de l'essence aussi avec.
Qu'est-ce qu'est le triticale ?
Alors, triticale, c'est un croisement, si je me trompe pas, du blé et du seigle. Voilà, c'est deux céréales qu'ils ont fait un croisement génétique. Le blé fait beaucoup de grains et le seigle faisait beaucoup de paille. Alors, ils ont croisé les deux plantes, ça fait que la plante, elle est un peu plus haute. Elle fait autant de rendement que le blé et elle a plus de paille.
Quand vous partez, comment vous faites avec vos bêtes ?
pour soigner mes bêtes, et ben je prends je suis adhérent à un service de remplacement. Et il y a un jeune qui vient leur donner à manger, qui fait la traite, qui s'occupe de tout, et moi je pars en vacances tranquille comme ça. Je sais qu'il y a quelqu'un qui pourra les soigner, les nourrir, et je peux partir en vacances la tête vide. Mais si on veut être moderne aujourd'hui et être agriculteur, et on peut faire que comme ça. Ou alors faut avoir un associé, travailler à deux, et pendant qu'il y en a un qui est en vacances, l'autre reste à la ferme. Mais le métier d'agriculteur aujourd'hui, c'est un très beau métier. Hein. Faut pas écouter la télé, faut arrêter de se plaindre tout le temps, de pleurer tout le temps, ça sert à rien. Hein. C'est où on a envie de travailler, d'aimer son métier, et puis voilà. Hein. Non, mais bon, il y a des moments difficiles. Hein. Mais en principe, on s'en sort. Et ce qu'il faut, c'est surtout, c'est l'investir. Il faut pas trop investir. Si vous investissez trop, vous pouvez pas vous sortir de salaire et tu peux pas. Et après, les banques, ils te mangent tout ce que tu as.
À quel âge les agriculteurs vont à la retraite ?
Alors là, c'est une grosse. J'ai pas encore. Je me suis pas penché dessus. Alors moi, on m'a dit 63. Il y en a qui disent d'autres 64, d'autres 67. Non, je sais pas trop. Il me reste encore quelques années, mais un agriculteur, il travaille jusqu'à sa mort. Hein.
Merci, Monsieur Gaget, d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci à tous.
Vous êtes sur Couleur FM dans l'émission Le Petit Sucierois, le magazine des enfants de Sucieux. Et maintenant, Léane va nous présenter sa pause musicale.
Bonjour, j'ai choisi Cœur de Pirate et je vais vous présenter qui elle est. Cœur de Pirate a commencé la musique à l'âge de 3 ans en faisant du piano. Elle a écrit ses premières chansons à l'âge de 18 ans. Le vrai nom de Cœur de Pirate est Béatrice Martin. Elle est née le 22 septembre 1989 à Montréal, dans l'ancienne ville d'Outremont au Québec. Elle a 26 ans. Cœur de Pirate est une chanteuse parolière, auteure-compositrice, interprète et pianiste canadienne. Elle a sorti son premier album au Québec en septembre 2008 et en France en avril 2009. Elle fait également partie du groupe Armistice avec Jay Malinowski. Pour vous faire découvrir Cœur de Pirate, j'ai choisi Comme des enfants, extrait de l'album intitulé Cœur de Pirate.
Pourquoi aimes-tu Cœur de Pirate et pourquoi as-tu choisi cette chanson ?
J'aime Cœur de Pirate parce que ma chanteuse préférée. Et j'aime bien la chanson parce que elle est bien, elle est jolie.
Alors tu vois comme tout se mêle, les deux cœurs à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant, et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. C'en est assez de citer doublement, c'est plus dur à faire qu'autrement. Car sans rire, c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants, le bonheur ou l'œuvre peu naïvement. Et on marche ensemble d'un pas décidé, alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Il m'aime encore, et toi tu m'aimes pas plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Et ma vie ça il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort.
C'était Cœur de Pirate, le titre Comme des enfants, extrait de l'album Cœur de Pirate. Maintenant, je vous propose une chronique écrite par Anaïs qui, hélas, est malade. Le modern jazz. Le modern jazz est un style de danse que l'on peut dire modern dance. La danse moderne, en anglais modern dance, à ne pas confondre avec danse jazz, contemporaine ou modern jazz, est un courant apparu quasi simultanément en Allemagne et aux États-Unis aux alentours de 1920. C'est une forme de danse
de scènes créées par des artistes voulant se libérer du cadre rigide de la danse classique, la danse moderne est engendrée après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on nomme aujourd'hui la danse contemporaine.
Merci Colline pour cette rubrique Modern Jazz écrite par Anaïs. Et maintenant, nous allons interviewer Romain, jeune sapeur-pompier.
Pourquoi es-tu jeune sapeur-pompier ?
Depuis 2 ans, j'ai voulu être jeune sapeur-pompier pour en faire mon métier. Et puis, j'aime ça, les camions et sauver des vies.
Où es-tu sapeur-pompier ?
Je suis au Grand Lens, entre Colombes et le Grand Lens.
Combien d'enfants êtes-vous ?
On est une 60aine d'enfants.
À partir de quel âge peut-on devenir sapeur-pompier ?
Normalement à partir de 12 ans, mais moi je suis allée à 11 ans.
Pourquoi ?
Parce que j'étais mordue de faire jeune sapeur-pompier et mes parents, on a demandé au chef et le chef nous a dit oui.
As-tu d'autres loisirs ?
Oui, j'en ai. J'ai les pompiers, le rugby et l'agriculture.
Faut-il être sportif ?
Faut être sportif et surtout, c'est tout dans le mental. Parce que comme mon prof de section a dit, tu vas sur une intervention, tu te déboîtes l'épaule, c'est tout dans la tête. T'as pas besoin d'être sportif.
Veux-tu en faire ton métier ?
Oui, je veux en faire mon métier, mais pas professionnel, volontaire.
Quel est ton plus beau souvenir en tant que sapeur-pompier ?
Mon plus beau souvenir, c'est quand on est allé à Villefranche-sur-Saône, quand on a fait le cross départemental.
Merci Romain, et on termine cette émission avec une dernière pause musicale. Jean-Jacques Goldman, je te donne, que vous présente Romain.
Jean-Jacques Goldman est né le 11 octobre 1951 au arrondissement de Paris et aujourd'hui il a 64 ans. Malcolm Jones naît le 28 janvier 1952 à Westpool au Royaume-Uni en Angleterre et aujourd'hui il a 65 ans. Malcolm Jones et Jean-Jacques Goldman ont sorti en 1952 Je te donne, que l'on écoute.
I can give you a voice bred with rhythm and soul, the heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring, carry thoughts in the songs we sing.
Je te donne mes notes, je te donne mes mots, quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois, ce que j'imagine, ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais les standards des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride, to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day.
Je te donne nos doutes et notre indicible espoir, les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brunes et l'on parle un peu fort, et l'humour et l'amour sont nos trésors. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux.
Au revoir, c'était le Petit Sucérois, le magazine des enfants de Sucieux. C'était proposé par Anaïs, Colline, Julie, Julie, Léane, Valentine, Arthur, Baptiste, Baptiste, Mathéo, Romain, Timothée. Et merci à Véronique et à Laurent pour la technique. Et nous souhaitons un bon rétablissement à Anaïs.
Merci, merci.